France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Alors, mon cher Julien, que vous inspire le thème du jour consacré au harcèlement scolaire?
Alors, je dois vous avouer que ce n'est pas une chronique facile aujourd'hui. Ça fait 6 mois que j'aborde les sujets difficiles de la parentalité en essayant de vous faire rire, sans toujours y réussir.
Mais si.
Mais celui du harcèlement scolaire ne prête pas franchement la poilade. Pourtant, j'avais bien quelques idées. Moi, quand on parle d'un être sans cœur qui vous guette derrière les portes, vous empêche de dormir et menace de vous rendre la vie impossible si vous ne sacrifiez pas l'argent de votre goûter pour lui, je veux dire que ça peut me faire penser à un enfant de 4 ans dans ses mauvaises journées. Mais la réalité, c'est que je crois que j'avais du mal à écrire cette chronique parce qu'elle touche à des questions auxquelles j'ai moi-même du mal à répondre.
Parce que vous n'y êtes pas encore confronté ?
Alors ça, c'est ce que j'aimerais me raconter. Quand mon enfant n'a pas encore 7 ans et qu'il est encore trop jeune pour connaître ce genre de problème. Sauf que cette idée s'est un peu écroulée avant-hier soir, quand juste avant de dormir, au moment du dernier câlin, c'est-à-dire au moment des grandes vérités, il m'a expliqué qu'un de ses camarades de classe l'avait tapé. Alors, j'avais déjà entendu parler de ce fameux camarade qui nargue les professeurs, gêne les jeux des filles et se moque des garçons. Mais jamais encore, il ne m'avait dit qu'il frappait les autres pour s'amuser. Et là, je dois avouer que j'ai bouillonné une bonne partie de la soirée à me demander comment réagir. Parce que mon premier réflexe, ce serait d'attendre que ce petit scarface d'1m20 à la sortie de l'école et le menacer de lui faire manger des crottes de chien s'il touchait encore un cheveu de mon marmot. Et là, je sens bien la limite de mes propres convictions sur la parentalité positive et la non-violence. Je vois qu'il y a un instinct très primaire de protection qui ressurgit et qui écrabouille toute conception sur la nécessité du dialogue et de la résolution pacifique des conflits. De sorte même, j'ai plutôt envie de lui apprendre la technique de la balayette pour éclater la tête du petit con sur le sol. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je me suis un peu calmé. Je suis comme Robert Mitchum, vous savez, dans La Nuit du Chasseur, j'ai un tatouage love sur un point, un hate sur l'autre, et j'essaie de lui expliquer qu'il doit faire face à ce type d'agression et se faire respecter, mais sans répondre à la violence par la violence, qu'il ne doit pas se laisser faire, mais pas non plus avoir recours aux mêmes méthodes. Bref, il comprend pas très bien ce que je lui conseille de faire, et a raison, parce que moi-même, je sens bien que je suis pas très clair.
Alors comment trouver, Julien, la clé et les mots pour en parler avec son enfant?
Eh bien, comme souvent chez les Bissons, le secours vient de la fiction. Il se trouve qu'en ce moment, on lit Harry Potter. C'est l'âge, 1 ou 2 chapitres tous les soirs. Or, dans Harry Potter, la question du harcèlement est centrale. Elle apparaît dans chaque volume, des enfants martyrisés, des enfants terrorisés, à commencer par Harry Potter lui-même, qui est reclus dans sa chambre placard sous l'escalier, mais aussi Neville Londubat, moqué pour sa maladresse, Hermione Granger, rejetée en raison de ses origines, Ron Weasley à cause de sa pauvreté, Mimi Géniard poursuivie jusque dans les toilettes, ou encore Luna Lovegood marginalisée par les autres élèves parce que trop excentrique. Lire Harry Potter, c'est faire l'expérience, à distance, de ces différentes formes de harcèlement, et donc pouvoir les reconnaître et en discuter le cas échéant. Mais c'est aussi mieux comprendre la logique derrière ce genre de pratique. Car les harceleurs dans l'œuvre, ce ne sont pas Voldemort et ses sbires incarnations du mal. Voldemort lui-même était plutôt un élève a priori irréprochable, préfet en chef, lors de ses années à Poudlard. Non, ce sont des élèves comme les autres, des enfants sans relief, nourris par la bêtise, l'ignorance ou le simple panurgisme. Pire, ce sont même parfois des gentils de l'histoire, comme le père de Harry Potter et ses amis, qui s'en prenaient plus jeune à l'un des antagonistes, le sombre Severus Rogue. L'histoire nous montre ainsi un monde dépourvu de manichéisme évident, où il ne s'agit pas d'opposer bêtement gentil et méchant, mais plutôt de montrer comment faire face au harcèlement lorsqu'il se produit. Et de ce point de vue, l'œuvre montre de façon plutôt subtile qu'il ne sert à rien de répondre à la violence par la violence. Exemple en est donné avec Ron Weasley qui veut défendre Hermione du perfide Drago Malfoy en lui lançant un sort qui finit par se retourner contre lui. Mais que pour autant, il ne faut pas laisser faire, laisser tomber, et surtout pas laisser tomber les autres, mais au contraire, afficher de la solidarité et de l'entraide. Ne pas laisser les harceleurs profiter de la faiblesse individuelle en leur opposant le courage et la force du collectif. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide, mais aussi à porter secours à ceux qui sont victimes d'une agression ou d'une humiliation. Alors je ne dis pas que c'est facile, bien sûr, mais même en dehors du monde d'Harry Potter, on peut aussi assurer à nos enfants que l'entraide et la solidarité, ce n'est pas forcément sorcier.
Harry Potter, citons-la tout de même, de J.K. Rowling, elle-même harcelée par une meute de haters sur les réseaux sociaux. Bruno Humbeck, petite réaction.
Sur Harry Potter, alors c'est très très bien, sauf que Harry Potter, c'est un sorcier qui se fait des illusions, au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il est dans un monde magique. Si évidemment on a des baguettes magiques à notre disposition, bah, on sortira facilement du harcèlement, mais elle n'existe pas. Et donc, j'aime bien la conclusion de dire qu'il faut en parler. Surtout pas s'imaginer, alors je déteste par exemple quand on dit, bah, si tu veux deviens un super-héros pour révéler le harcèlement. Non, sois tout à fait un enfant tout à fait normal, mais il faut que l'école te donne les moyens de dire les choses dans un cadre sécurisé. C'est ça les outils qu'on veut mettre en place. Et donc, il ne s'agit pas de se transformer en sorcier et d'inviter son enfant à l'être, parce que, ben justement, le harcèlement, c'est l'affaire de tous, et c'est surtout l'affaire de l'école qui permet aux enfants de ne pas devoir être des magiciens pour sortir du harcèlement.
Julien ?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est l'idée aussi, mais de dire aux enfants qu'il faut prêter attention à la souffrance des autres. C'est leur savoir très tôt, très jeune. C'est très difficile de prêter attention à la souffrance des autres, de façon à ce qu'ils soient ensuite en mesure de pouvoir les aider et attendre d'être aidés eux-mêmes.
Florence Millot.
Mais ça, je crois que ça, effectivement, ça peut se faire que en groupe, à visage humain, sans internet, où un professeur ou un adulte travaille dessus, pose une émotion qui est au-delà même du harcèlement, qui est du vivre ensemble, qui est je prends conscience que tu es triste, que tu es heureux, et qu'on se retrouve à visage humain, bien avant que les situations...
Ne se détériore. Vous pouvez podcaster et partager la chronique Ma vie de parent de Julien Bisson sur l'appli France Inter.